Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Demain, cela fera un an que Donald Trump a été investi en tant que 45e président des États-Unis. Depuis, rares sont les jours où il n'apparaît pas dans l'actualité. Le président américain communique beaucoup et fait l'objet d'une attention médiatique considérable. Comment les Américains réagissent-ils à ce flot de déclarations, de révélations? Quelle portée ont les décisions prises par la nouvelle administration concernant par exemple l'immigration ou la remise en cause des traités internationaux? Quel est l'effet Trump sur la société américaine? Une année de présidence Trump a-t-elle changé les États-Unis?
RFI.
On en parle avec nos deux invités de ce soir. Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris 2 Assas, c'est l'Université de la Sorbonne. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est aux éditions Priva. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Florence Ponce, Jean-Éric Brana m'a signalé que vous reveniez tout juste des États-Unis. Est-ce que il y a un changement particulièrement notable que vous percevez quand vous allez aux États-Unis désormais un an après l'investiture de Donald Trump?
Ah oui, il y a un changement absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui les supporters Donald Trump et les anti-Trump ne se parlent plus. Il y a deux mondes, donc effectivement, si j'ai appelé ce livre l'Amérique divisée, c'est pas par hasard. On sentait que la division était là, mais on la perçoit même dans la rue. Et les gens, quand vous leur posez la question, ils vous donnent même des anecdotes. Ils expliquent que dans la famille, parce qu'il y a un cousin ou un frère, une sœur qui a pas voté comme eux, ben on l'écarte. c'est plus possible aujourd'hui de parler. Donc deux Amériques avec un ravin entre les deux Amériques qui ne peuvent pas se rejoindre, et on voit ça dans les courbes de popularité et d'impopularité de Donald Trump, les deux depuis le mois d'avril étant complètement linéaires, droites, l'une à 55 et l'autre à 40, et ça ne bouge pas ni vers le haut ni vers le bas, parce que aucun camp ne va faire maintenant l'effort d'aller de l'autre côté. Il n'y a plus de porosité comme il y a toujours eu dans la société américaine, où effectivement on voyait des grandes courbes, des montées, des descentes. Là, de chaque côté, on a des supporters du côté de Trump, voire des fans. C'est vraiment, j'emploie ces mots-là volontairement, parce que on peut plus rien faire entendre à des fans, et on est dans cette situation. Et de l'autre côté, des anti qui sont souvent des ultra-anti. Donc c'est assez perturbant quand on a connu cette Amérique depuis longtemps et qu'on a vu cette communication qui passait de façon assez fluide et très calme dès qu'on parlait politique. Aujourd'hui, on est un peu dans la situation de Français, hein, qui ne vont plus se parler politique non plus. Donc on va avoir un tabou supplémentaire. Oui. Américaine.
Une société définitivement divisée, donc, si je vous entends bien. Laurence Nardon, qu'est-ce qu'on peut ajouter au chapitre de ce qui a changé aux États-Unis?
Et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec cette polarisation qu'on sentait depuis des années, mais qui là s'est vraiment cristallisé effectivement autour de Trump. C'est vrai, on a l'impression de passer de l'autre côté du miroir avec des réalités, une réalité qui est complètement dédoublée. Et la dernière fois que j'étais à Washington, alors anecdote personnelle aussi, je parlais à quelqu'un que je connais qui est éduqué, qui est à Washington, qui est pas du tout un petit blanc pauvre qu'on imagine être l'électeur, enfin qui forme l'électorat majeur de Trump, quelqu'un d'éduqué qui est quand même très républicain. Et je lui ai demandé ce qu'elle pensait de Trump, et en m'attendant à ce qu'elle ne l'aime pas. Et elle m'a répondu, du haut de son building à Washington, donc pas du tout dans la Rust Belt ni dans le Sud profond, oui, je n'aime pas du tout le personnage, il est vulgaire, il n'est pas du tout religieux, évidemment, mais il faut reconnaître que les États-Unis vont très très bien, et que l'économie américaine va très très bien, la croissance, le chômage. Et elle m'a cité un chiffre que j'ai ensuite été vérifié, parce que je ne la croyais pas sur parole. Elle m'a dit le taux de confiance des Américains dans leur économie, qui a été négatif depuis la crise économique de 2007-2008 et pendant tous les deux mandats d'Obama, ce taux de confiance est redevenu positif en novembre 2017. Il y a un an, 2016, pardon, il y a un an, lors de l'élection, au lendemain de l'élection de Trump. C'est-à-dire que les Américains, en majorité, alors même si 40% seulement soutiennent Trump, ont repris confiance dans l'économie, dans la situation économique de leur pays au lendemain de l'élection de Trump. C'est quand même frappant, quand même très très troublant.
Un Donald Trump qui ferait l'affaire finalement, Jean-Éric Brannin.
Oui, et bien alors, anecdote pour anecdote, j'ai eu l'occasion il y a 4 jours de dîner, une conférence débat avec les Français de Miami. Donc là, c'est assez intéressant, puisque ce sont nos compatriotes installés là-bas et qui sont généralement des entrepreneurs qui ont ouvert un commerce, une entreprise, et qui ont à la fois un pied d'un côté et de l'autre, et eux aussi soutiennent plus ou moins Donald Trump et répète comme les Américains it's embarrassing, il est embarrassant ce type-là, c'est vrai que quand même ce serait bien qu'il la mette en veilleuse de temps en temps, mais globalement écoutez, il fait le job et sur l'économie il est au rendez-vous. Comme il l'avait dit, l'emploi est au rendez-vous, vous savez, 300 000 emplois créés dans une situation de plein emploi, c'est pas si simple. C'est vrai qu'il y en avait plus de créés sous Barack Obama, mais il revenait très loin. Une croissance qui est à plus de 3 alors que quand il est arrivé elle était à 1-2, elle était encore molle, et les économistes, les macroéconomistes disaient qu'on pouvait pas arriver à 3, et Donald Trump nous expliquait que ça arriverait même plus loin, 4 ou 4-5. Un Dow Jones qui est passé de 18 000 le 8 novembre 2016 et qui est à 26 000 depuis 3 jours, je veux dire, ça a crevé le plafond, même si là, ça vient de se calmer ce soir puisqu'ils attendent le shutdown et qu'ils ont un peu peur, mais globalement, ça les Américains le voient, Donald Trump le répète de toute façon 3 fois par jour, donc ce serait dur de l'oublier, et même s'il ne le répétait pas, c'est quand même une réalité du moment. On est dans une situation de plein emploi et la confiance est là, et la confiance joyeuse, j'ai envie de dire. Les Américains pensent effectivement qu'ils ont un rôle à jouer dans l'économie mondiale.
Alors, on retient comme premier changement majeur, ce clivage accru, on va dire, au sein de la société américaine. Le rapport au monde, du monde, du moins aux États-Unis, n'est plus le même non plus. Comment on le définirait désormais ?
Alors, à mon sens, c'est très très clair. Trump a fait basculer la politique étrangère du pays dans un refus explicite du multilatéralisme et de ce qu'on appelle l'ordre international libéral, ce qui est l'organisation du monde telle qu'elle avait été mise en place par les alliés, les États-Unis au premier rang, en 1945. C'est-à-dire un monde avec l'idée que sur la scène internationale, il y a des règles, il y a un droit international qu'on doit respecter, il y a des institutions, l'ONU, chez nous, l'Union européenne. Eh bien, Donald Trump, lui, il pense pas du tout comme ça. Ça a été très très clair pendant sa campagne. Il a mis un petit peu d'eau dans son vin au début de son mandat, parce qu'il avait des conseillers qui le tiraient dans l'autre sens. Et là, je crois que très clairement, on revient à une vision du monde extrêmement sombre, extrêmement dure, chacun pour soi. Il n'y a pas de coopération qui tienne par elle-même dans le monde international. C'est une vision du monde que je trouve extrêmement inquiétante.
Et l'image des États-Unis, alors, dans le monde, est-ce qu'elle est différente aujourd'hui, Jean-Éric Brannin ?
Oui, j'avais écrit dans US News and World Report, il y a juste le lendemain de l'élection, vous verrez, dans un an, on parlera de l'anti-américanisme qui sera revenu. Bah, on y est. L'anti-américanisme est quand même extrêmement fort à travers le monde, pas partout, ceci dit. Il y a beaucoup de pays où Donald Trump est très populaire et on pourrait être surpris. Non, il y en a plus de deux. Franchement, il y a pas mal de pays. Et on serait surpris dans ces pays-là, nous, parce que en Europe, par contre, il est très impopulaire, mis à part la Pologne et la Hongrie, où il y a une autre vision. Le taux d'impopularité en France doit avoisiner les 90%, donc on est franchement très très haut. En tout cas, c'était le dernier chiffre qui était donné fin octobre par un institut un petit peu sérieux. Le fait est que Donald Trump a imposé, je suis assez d'accord, un tempo très différent au monde. Il a appliqué en fait ce qu'il a fait pendant sa campagne, la théorie du chaos qu'il avait appliqué pendant la campagne, qu'il applique depuis à sa présidence. Et sur l'extérieur, c'est un principe d'incertitude. Il faut que les diplomaties soient affolées, qu'on ne sache jamais comment il va agir. Donc un jour je crie très fort, le lendemain je négocie, un jour je vais à droite, un jour je vais à gauche.
Concrètement, est-ce que les décrets des premières semaines sont mis en application, ce boycott des pays musulmans par exemple, ou l'abrogation des mesures pro-environnementales décidées par l'administration Obama ?
Alors moi j'ai passé une partie de l'année, je dois dire, à expliquer, enfin j'avais des bonnes raisons pour le faire quand même, que les contre-pouvoirs au sein du pays, institutionnels, société civile, etc., fonctionnaient assez bien. Parce que ce qu'on a vu en début d'année, janvier, février, etc., c'est que le pouvoir judiciaire bloquait ce fameux décret Muslim Ban dont vous parlez. Il l'a bloqué à plusieurs reprises. Donc ça c'est pour le pouvoir judiciaire, côté pouvoir législatif, ben, il n'a pas réussi à faire voter un certain nombre de lois qu'il voulait faire voter au Congrès, parce que il faut une majorité, puis qu'il ne l'avait pas. Je pense à la réforme de santé pour détruire Obamacare. Et puis, au sein même de l'administration, il y avait un certain nombre de personnes ou de services qui mettaient des bâtons dans les roues. Je pense à l'Agence de protection de l'environnement, qui n'aime pas du tout le retrait de l'accord de Paris, etc. Et puis, parlons aussi de la société civile, où il y avait un mouvement de résistance chez les anti-Trump, hein, dont Jean-Éric parlait tout à l'heure. Et puis évidemment aussi la presse. Parce qu'il faut quand même voir que si la presse est extrêmement polarisée aujourd'hui avec Fox News qui adore le président, il y a évidemment aussi une presse de gauche, on pourrait dire chez nous, qui tire à boulets rouges sur le président matin, midi et soir. Je pense au Washington Post notamment. Et donc ça, je pense que ça a quand même bien marché. Là, le vote de la réforme fiscale en fin d'année me fait penser que bon, Ça a peut-être des limites, on va voir. Il y a encore 3 ans à tirer, et peut-être même 8 s'il se fait réélire, ce qui n'est pas impossible.
Alors, vous avez évoqué les contre-pouvoirs. On sait qu'ils sont puissants aux États-Unis. Est-ce qu'il y a, on peut le dire, sur le terrain, une résistance forte au Trumpisme triomphant?
Oui, il y a plusieurs mouvements. Il y en a un en particulier qui s'appelle les Indivisibles, c'est-à-dire une résistance spontanée qui est née de la rue, qui s'est organisée depuis avec des militants associatifs et certains politiques, plutôt des milieux très libéraux, qui ont mis en place un système de harcèlement du pouvoir, comme l'a fait les Tea Party du temps de Barack Obama, d'ailleurs en s'inspirant des Tea Party, en disant ça a marché d'un côté, on va le faire de l'autre.
En jouant l'obstruction.
Et oui, en jouant l'obstruction, clairement, et puis aussi en diffusant des nouvelles régulièrement, des scoops, on va dire, que ce soit sur l'affaire russe, que ce soit sur des révélations qui arrivaient de l'entourage de Trump, toutes ces fuites qu'on a vues à la Maison-Blanche ou dans les différents ministères, tous ces gens qui ont rejoint, qui sont des fonctionnaires, qui ont rejoint ces mouvements et qui ont ouvert des tas de sites ou de comptes, par exemple sur Twitter, sont très faciles à trouver, vous mettez n'importe quel nom d'administration, vous mettez devant les 3 lettres ALT, A-L-T, et vous avez un compte pirate où on vous dit des tas d'informations, de choses que vous avez absolument besoin de savoir pour pouvoir contrer Donald Trump, et les dossiers sont diffusés très largement. Donc ça s'est fait de façon très exponentielle pendant toute la première année. L'administration est en train d'y mettre un holà, puisque Jeff Sessions a fait voter des dispositions pour pouvoir poursuivre chacun de ses fonctionnaires et traîner tout le monde devant la justice, et ça va y aller par charrette entière effectivement. Donc c'est de ce côté-là le gouvernement Trump essaie de reprendre le contrôle, parce qu'il se rend compte que c'est le talon d'Achille. Effectivement, cette obstruction terrible qui empêche d'avancer, c'est ce que Trump a appelé l'état profond qu'il voulait combattre globalement. Il y a d'autres oppositions. Il y a les démocrates qui sont en train d'une position forcenée qui, à mon sens, est une erreur, puisqu'ils ont oublié au passage, d'une part, de mettre en place un programme digne de ce nom qui serait alternatif et séduisant pour l'électorat, et d'autre part de faire monter des personnalités crédibles et jeunes, puisqu'on nous annonce que pour 2020, ceux qui vont se présenter s'appellent Bernie Sanders, excusez-moi du peu pour la jeunesse, ou Joe Biden, qui est de la même génération, ou Elizabeth Warren, qui est à peine plus jeune, 5 ans de moins. Donc c'est quand même assez terrible l'état actuellement de l'opposition à Donald Trump, qui est un chariot fou, un petit peu lancé comme ça, et qu'on n'arrive pas à arrêter. Donc il y a des contre-pouvoir, mais en même temps hors de contrôle, et ça c'est toujours la limite de l'exercice.
Quand on fait la liste comme ça des transformations, on en arrive à se demander qu'est-ce qui n'a pas changé finalement aux États-Unis. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question?
Oui, quand même, il faut raison garder, parce qu'en même temps on observe que l'économie continue à fonctionner, ça on a commencé par là, mais en même temps ça reste une démocratie solide. Je prends par exemple, pour reparler de la presse et des opposants dont on vient de parler, quand même, aucun d'entre eux n'est en prison le lendemain matin. Alors, on n'est pas en Turquie ou dans un pays où l'état de droit n'est pas respecté. L'état de droit est respecté. Ce qui a changé quand même, c'est vrai, quand on dit que la démocratie américaine est attaquée, c'est beaucoup dans le discours d'Obama, où il va attaquer des journalistes, etc., verbalement, rien ne se passe derrière. Et puis aussi, c'est dans la modification, la dégradation des normes accepter de comportement politique au plus haut niveau. C'est-à-dire que c'est un président qui effectivement insulte les gens de manière presque ridicule. Et ça c'est une dégradation de la solennité de sa fonction, etc.
Mais enfin, mais volontaire.
Comme on le voit en France, ça peut revenir là, avec un prochain président.
Et puis là, on revient à ce qui a changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé, Jean-Éric Brana?
Ça dépend par rapport à quoi. Excusez-moi, mais si on compare par rapport à Barack Obama, rien n'a pas changé, puisque là, pour le coup, tout a changé. Mmh. Pendant un an, Donald Trump s'est engagé dans un détricotage systématique de tout ce qui avait été fait sous Barack Obama. Il est l'antithèse de Barack Obama. Donc la société elle-même s'est placée dans une autre optique par rapport à Barack Obama. Par rapport à l'histoire des États-Unis, ce qui n'a pas changé, c'est à peu près tout, puisqu'aujourd'hui, on a un type de présidence qu'on a déjà connu dans l'histoire, qui était celle des républicains au début du XXe siècle. C'était exactement le même type de présidence, avec des hommes qui voulaient un protectionnisme très fort, qui voulaient pas de contrôle de la part de qui que ce soit à l'extérieur, et qui avaient une intention superbe, qui était d'envoyer les produits américains à l'extérieur, envahir le monde pour pouvoir apporter une influence américaine. Ils ont inventé ce qu'on appelle le soft power, et Donald Trump est en train de revenir à l'essence même de cette politique des républicains de l'époque. Fait exactement la même chose. Mmh. Donc ça, c'est assez frappant de voir que ce programme America First, Make America Great Again, ou vous l'appelez comme on veut, est exactement la quintessence de ce qu'on a déjà connu aux États-Unis.
Avec des réformes qui ont pu aboutir et qui risquent finalement de transformer durablement le pays. Je pense à la nomination, par exemple, vous en parlez dans votre livre, des juges fédéraux.
C'est absolument extraordinaire. Mmh. Je veux dire, c'est vrai que les contre-pouvoirs fonctionnent terriblement bien aux États-Unis, notamment en matière de justice. Pour le Congrès, c'est un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Mais même en matière de justice, l'affaiblissement se fait très fortement, parce que partout où il n'y a pas deux sénateurs démocrates, ce qui bloque la machine pour la nomination des juges, effectivement, comme en Californie par exemple, partout ailleurs, Donald Trump a eu dans les mains un cadeau extraordinaire qui lui a été fait par Mitch McConnell, qui avait bloqué l'ensemble du processus pendant un an, et on s'est trouvé avec une centaine de postes qui n'étaient pas pourvus au niveau fédéral, que ce soit aux trois étages de la cour, les cours de district, ce sont les cours de premier niveau, première instance, les cours d'appel ou la Cour suprême, et cette centaine de juges vont être les témoins de la présidence de Trump pour des dizaines d'années derrière, puisque c'est comme ça que la Constitution a été faite, et ces juges prolongent l'action de ce président dans son conservatisme, dans les grandes lignes de ce qu'il a l'intention de mettre en place pour très longtemps. Et ces juges ont été nommés à tour de bras. Les démocrates ne s'en sont aperçus que fin juillet, puisqu'ils étaient occupés à se battre ailleurs, et à ce moment-là, sont rentrés furieusement dans une opposition pour ne pas confirmer ces juges, puisqu'ils devaient être confirmés par le Sénat. Et malheureusement pour eux, il faut bien à un moment les confirmer. Donc aujourd'hui, on a déjà plus de 70 juges confirmés, nommés par Donald Trump. Et il y en aura peut-être 3, voire 4 à la Cour suprême. Alors, s'il était réélu.
Un petit mot, parce qu'on est en fin d'émission quasiment, du retrait de l'accord climat. Quel impact il va avoir? Est-ce que ça va être sérieux, cet impact américain?
Déjà, le retrait de l'accord international va prendre plusieurs années, mais là encore, il y a une action intérieure parallèle, de détricotage des décrets environnementaux et des lois environnementales, qui est, à mon avis, très grave, mais qui révèle un autre contre-pouvoir dont on n'a pas parlé, et qui est le fait que ce soit un pays fédéral. Et donc, quand Trump, depuis Washington, détruit, enfin annule des décrets de production de l'air ou de l'eau au niveau fédéral, les États... La Californie, par exemple, pour ne pas la nommer, qui ont des législations locales plus strictes, ne sont pas obligées de les défaire. Donc, ça ne va pas impacter l'environnement, enfin la régulation environnementale de la Californie et des autres États progressistes. Bon. Mais il est bien entendu que le Texas s'en donne à cœur joie. Ce temps-là.
Et puis ce qu'un président a fait, le suivant peut peut-être le défaire relativement facilement.
Mais sur l'environnement, ça ne se répare pas.
Non, ça va être difficile. On n'a pas le temps d'en dire plus, malheureusement. Merci à tous les deux, Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Merci.
Et Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris de Assas. Je rappelle le titre de votre livre, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est aux éditions Priva. Merci à Florence Ponce qui a préparé cette émission et à Fabrice Viollet qui la réalise. Merci de l'avoir suivi. À vous, vous pouvez retrouver bien sûr le débat sur notre site RFI.fr. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur la radio mondiale. Bonsoir à tous.